connaissez cette chanson de Charles Aznavour qui dit « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ». Il y a à peu près une trentaine d'années, alors que l'église était sortie de terre ici, puisqu'on a fini de construire en 82, ça fait 30 ans cette année, on a réfléchi, les responsables de l'époque ont réfléchi à soutenir un missionnaire. On n'avait pas de missionnaire dans l'église, de missionnaires partis de l'Église. Donc, on a cherché un petit peu les associations missionnaires et puis on s'est tourné vers la CIM. Et puis, la CIM nous a dit, tiens, on a justement un jeune couple missionnaire, là, à l'époque. Hein. À l'époque, j'avais 30 ans. Pierrick avait 2 ans. Ça date un petit peu. Qui est-ce qui était là il y a 30 ans? Vous levez la main. Oh! Ah, c'est super. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Ouais, c'est sympa. Tiens, Christine, j'ai pensé que t'étais là il y a une trentaine d'années. Et puis donc, on a fait la connaissance de David et de Mamie Ratovo, qui étaient missionnaires en Afrique. Donc, ils sont partis en Afrique noire. Ils étaient malgaches et partis en Afrique noire. Et puis, tout au long de ces années, on a appris à se connaître, on a appris à partager. Et puis, David est venu peu en Europe, c'est vrai, parce que c'est loin, Madagascar aussi. Puis quand on est missionnaire, on a beaucoup de boulot. Et puis on n'a pas beaucoup d'argent non plus pour se promener comme ça. Et alors, il est venu en Europe plusieurs fois. Il est toujours passé chez nous voir. Et cette année encore, on a la chance de le voir. Juste, alors c'était hyper compliqué. On l'a récupéré hier soir et on le relâche en début d'après-midi. C'était vraiment super, on est reconnaissant. Et David donc va nous partager un petit peu d'abord la parole de Dieu et puis ce qu'il a fait depuis ces années. David, on veut vraiment, on se réjouit vraiment, vraiment de t'avoir de nouveau. Tu es seul, Mamie est partie l'année passée, c'est vrai, tu nous l'as expliqué hier soir aux jeunes aussi. C'est difficile pour nous, c'est difficile pour toi, mais on veut vraiment continuer à penser à toi et on est vraiment réjouis de t'avoir parmi nous. Que Dieu te bénisse, je te laisse toute la place.
Bonjour à tous. Et effectivement, c'est une grâce, bénédiction d'être à nouveau parmi vous. Comme Jean-Paul l'a dit, ça fait bien longtemps que nous sommes en relation avec l'Église ici à Prévesin. Et pour moi, c'est vraiment une grande joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, mais aussi nos projets à Madagascar. Donc, tout à l'heure, nous allons voir un diaporama dans lequel je vais vous expliquer un peu ce que nous faisons en ce moment. Et peut-être aussi susciter des vocations pour la mission à Madagascar. Pour le moment, j'aimerais partager, méditer avec vous sur un texte du Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 17. Et nous continuerons dans le chapitre 3 jusqu'au verset 13. Nous allons lire au nom du Seigneur. Pour nous, frères, séparés de vous pour un temps, par la vue mais non par le cœur, nous avons cherché avec autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Aussi, n'y tenons plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenons plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités, de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes supplications afin de voir votre visage et de suppléer ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Parfois, quand on lit les épîtres de Paul, on a envie de se taire après avoir lu, puisque c'est tellement clair. Et comme disait un certain Jean Chrysostome, vous attendez le serment que je vous dois, donc je vais quand même expliquer. Nous vivons un temps de crise partout dans le monde. Bon, en passant en Suisse et puis un peu en France, je ne vois pas trop la crise. Mais chez nous, en Madagascar, c'est terrible. Crise pas seulement politique ou économique, mais aussi crise morale, crise spirituelle, crise au sein des familles, dans les églises. Et ces derniers temps, ces dernières années, c'était un de mes lourds fardeaux d'aider des églises, des pasteurs à se réconcilier. Mais ce qui aggrave et accentue encore la détresse, c'est que ceux qui sont appelés à relever le moral ne font que critiquer ou juger sur des préjugés. Donc, je vous invite à méditer sur ce passage, sur le thème « L'importance de l'encouragement ». L'apôtre Paul nous donne un modèle, mais aussi il nous donne l'exemple des Thessaloniciens qui aussi, de leur côté, vont nous donner un modèle. Puis finalement, il y aura une disposition clé que Paul va énoncer. Premièrement, pour Paul, l'encouragement est une priorité. Dans les chapitres 1 et 2 de 1 Thessaloniciens, il va parler du progrès de leur foi, des soins que Paul leur a prodigués comme une mère, comme un père, dit-il, chacun dans leur situation particulière. Mais Paul a dû les quitter alors qu'ils étaient encore jeunes dans la foi. Et en plus, il y avait les persécutions qui sévissaient déjà à cette époque. Mais pour Paul, l'expression loin du cœur, loin des yeux n'est pas vraie. Et même s'il était loin d'eux, comme il est dit au verset 17 du chapitre 2, son attachement pour les Thessaloniciens était vraiment vrai, authentique. Ce ne sont pas simplement des émotions ou des sentiments passagers, mais c'était vraiment profond chez lui. Il va chercher tous les moyens pour réaliser concrètement son désir de les encourager de vive voix. Au verset 17 et au verset 18. Mais, et là il y a un mais Satan nous en a empêchés. L'ennemi connaît l'importance de l'encouragement dans la progression de l'Église. Ce n'est pas seulement l'évangélisation qui est importante, les études bibliques, les réunions du comité, tout ça, ce sont des choses utiles, importantes pour l'Église. Satan peut mettre toutes sortes d'obstacles pour que nous ne soyons pas encouragés. La maladie, l'activisme, manque de temps, manque d'argent, peut-être la timidité aussi, on n'ose pas approcher un frère, bien que nous sachions bien qu'il a besoin de notre encouragement. Même si le désir est là parfois. Et c'est là que nous avons besoin de la direction de l'Esprit-Saint et du discernement pour voir où sont les priorités. Ici, la priorité pour Paul était d'affermir et d'encourager les Thessaloniciens dans leur foi. Chapitre 3, verset 2. Et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'Évangile, afin de vous affermir et de vous exhorter. Et alors, il s'est privé d'un collaborateur dans sa mission d'évangélisation. Il s'est volontairement privé de Timothée pour l'envoyer parmi les Thessaloniciens pour les encourager, pour les affermir. S'il ne l'a pas fait, à ce moment-là, tous les efforts qui auront été entrepris, tous les acquis auraient été perdus. Au verset 5, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi, ni te non plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail soit réduit à néant. Alors, on serait obligé de recommencer à zéro et le travail ne progresse pas. Pourquoi certains chrétiens, certaines églises ne progressent pas, stagnent? Peut-être qu'à un certain moment, ils avaient eu besoin simplement d'encouragement. Mais personne n'était là pour le faire. Mais Paul ne s'est pas laissé arrêter par les difficultés, les obstacles érigés par Satan. C'est une lutte spirituelle de chaque jour. Et si une méthode ne convient pas, il faut en trouver d'autres. Si je ne peux pas me déplacer, alors j'envoie quelqu'un d'autre. J'envoie une lettre, j'envoie un CD de prédication pour des missionnaires qui sont loin, qui n'entendent pas, qui ont besoin de ressourcement. Envoyer un livre, un SMS, email, etc. Nous sommes dans un temps où la communication est tellement facile. je me souviens bien, notre fils, il étudie à 1000 kilomètres de chez nous, à Tuléar. Et un temps, il était responsable du groupe de jeunes dans l'église. Mais à un moment donné, il n'y avait plus personne, il n'y avait même pas de responsable, pas de pasteur, pas de prédicateur. Et donc, notre fils était bien obligé à la fois de faire la Sainte Cène, prédication, jouer du clavier, encourager diriger la chorale. Et à la fin, il était KO. Et il nous a téléphoné. Et il y a des gros problèmes dans l'église. Papa, maman, qu'est-ce que je dois faire? Et sa mère prend le téléphone, dit maintenant, on va prier. Et les deux ont, dans le téléphone, elle a prié. Une autre fois, il me pose des questions et on essaie de résoudre les problèmes au téléphone. Pourquoi le téléphone peut servir à quelque chose d'encourageant? En résumé, c'est vrai qu'en tant qu'apôtre fondateur, Paul avait le devoir d'encourager, d'édifier, de fortifier les jeunes églises, les nouveaux convertis. Cependant, ce que je voudrais souligner, c'est vraiment cet état d'esprit, cette disposition spirituelle qu'il y a derrière cela. C'est la volonté de faire progresser les autres, la volonté de les encourager, la volonté de dépasser les obstacles pour réaliser cela. Notons que Satan déteste ce ministère d'encouragement et va chercher tous les moyens pour l'empêcher. Ou alors pour qu'on fasse l'inverse, c'est-à-dire décourager les gens. Mais ce ministère n'est pas la seule responsabilité des leaders, des dirigeants. Ce ministère d'encouragement est donné à tout le monde. C'est la responsabilité de tout un chacun. Au verset 8 et 9, voici ce qu'il dit. « Maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant Dieu. » Oui, en fait, les Thessaloniciens avaient aussi un ardent désir de revoir Paul. Leurs souvenirs, leur foi, leur amour étaient une grande consolation, un grand encourageant pour ce grand Paul. Dans ses angoisses, dans ses détresses, verset 7, au milieu de toutes nos tribulations, dit-il, d'entendre dire que les frères de Thessalonique pensaient à eux, qu'ils étaient fermes dans la foi, c'était vraiment une force pour Paul d'entendre cela et qui permettait à Paul de supporter des souffrances dans son ministère. Ce n'est pas réservé à certaines personnes seulement d'encourager et à d'autres d'être encouragés. Parfois dans l'église, on croit que bon, Jean-Paul, il est fait pour encourager. Et Pierre, il est fait pour être encouragé. Non, chacun son tour, n'est-ce pas? Et Paul dit ici, si tu es fortifié, celui qui t'a encouragé sera aussi fortifié. Au verset 8, il dit, nous vivons, puisque vous tenez bon dans le Seigneur, en quelque sorte. Personne ne vit pour lui-même quand il entre dans la famille de Dieu. D'où l'importance de l'Église, corps de Christ. Quand mamie est partie auprès du Seigneur, quelque chose qui m'a beaucoup touché, petite fille ado, pré-ado même, 8 ans, 9 ans, 7 ans. Elle est venue vers moi et m'a serré dans ses bras. Enfin, un peu bas, quand même, aussi, quoi. Et puis elle a dit, « Ah, tonton pasteur David, je prie pour toi. » Bon, j'ai fondu en larmes, mais j'étais vraiment encouragé. Et voilà tous les jeunes et les moins jeunes qui viennent et qui encouragent. Moi, le pasteur, j'ai besoin de ça. À des moments difficiles. Oui. Importance de l'Église, corps de Christ. Lieu par excellence de l'encouragement mutuel. Il n'y a pas de chrétien Robinson, comme disait Alfred Kuhn. Ma vie t'encourage, ou bien t'affaiblit, ou même peut te tuer. Tu ne peux pas dire, mon progrès, ça ne concerne que moi et Dieu. Non. Ta vie aura toujours une répercussion sur les autres autour de toi. Voir 1 Corinthiens 12, l'image du corps. Paul dit ici, nous vivons parce que vous tenez bon. C'est une question de vie ou de mort. Et il y a beaucoup de manières ou d'étapes pour réaliser concrètement cet encouragement. Au verset 5, c'est pourquoi j'envoie Timothée pour s'informer de la situation des frères, partager l'information, volonté de demeurer soi-même ferme dans le Seigneur, parce que cela va affermir aussi les autres. Quand il me voit ferme, eh bien, il va aussi s'affermir. Compléter ce qui manque, c'est-à-dire apporter des enseignements, redresser les erreurs doctrinales ou autres. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, dans ces moments douloureux, difficiles, atroces, son agonie à Gethsémani avait besoin de réconfort. Malheureusement, les apôtres étaient en train de dormir. L'encouragement n'est pas à sens unique. Au verset 12, il y a un petit mot. En grec, c'est un seul mot, mais en français, c'est 4 mots. Les uns les autres. Les uns les autres. Et encore, ce fameux Alfred Kuhn a écrit tout un livre là-dessus. Plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, ce petit mot est mentionné. Les uns les autres. Pour moi, quand certains de mes anciens élèves m'écrivent pour m'encourager, c'est vraiment une grande récompense pour moi, un grand encouragement. Beaucoup sont des pasteurs maintenant, et leur fermeté dans la foi, leur zèle dans le ministère me font vivre. Ils me donnent envie de vivre et de continuer à vivre, et de continuer à servir le Seigneur. Frère Jean-Paul a introduit tout à l'heure, voilà presque 30 ans que nous sommes attachés les uns aux autres. J'aimerais ici vous dire merci. Un grand merci. C'est un petit mot, mais le Seigneur c'est, et nous savons que votre soutien, vos prières, votre souvenir envers nous ont été vraiment un grand encouragement pour nous dans l'accomplissement de notre travail à Madagascar. J'espère que notre foi aussi, notre progrès, notre fidélité dans ce ministère, déjà depuis 30 ans que vous nous soutenez, tout cela, nous espérons que cela vous encourage aussi. N'est-ce pas? Que vous ne nous avez pas soutenus en vain. Et j'espère que cela vous fait vivre aussi. Enfin, Paul dit au chapitre 2, versets 19 et 20, « Vous êtes notre joie, notre orgueil, notre couronne. » Et encore au chapitre 3, verset 9, « Nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, quelle action de grâce nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant Dieu. » Paul va encore plus loin dans cet esprit d'interdépendance dans l'encouragement mutuel. C'est comme s'il disait, en fait, notre assurance de nous tenir devant Dieu sans honte, c'est vous, ce que vous êtes devenu. Donc, notre assurance dépend de votre progrès, de votre foi, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul de conclure, et moi aussi, la clé de l'encouragement, au verset 12, que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres. La clé, c'est cet amour réciproque, un amour qui déborde. Comme disait un grand frère dans le Seigneur, il faut que, quand vous passez au milieu des gens, ces gens soient touchés par votre amour. L'ultime but de tout cela, c'est notre sanctification, que nous soyons irréprochables au jour du Seigneur. Alors, vous aussi, vous pourrez vous tenir sans honte, Église de Brève-Saint, devant le Seigneur à son retour. Vous avez contribué à faire avancer le royaume de Dieu par l'intermédiaire de David et Mamie et sa famille. En les soutenant, nous n'aurions jamais pu accomplir notre travail pour le Seigneur sans votre soutien fraternel, votre soutien financier, pour pouvoir vivre simplement, mais aussi aider les autres. Vous êtes un peu comme Paul. Vous ne pouviez pas venir à Madagascar pour des raisons bien connues, mais vous avez envoyé vos dons, vos prières, qui ont été un grand encouragement pour nous. Merci et que Dieu vous bénisse.